Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, avec comme tous les soirs jusqu'à 19h, les grandes voix qui sont là et qui débattent ce soir autour de vous. Nathalie Lévy, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. Vous avez bien entendu suivi l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Le président de la République a esquissé ce qu'il appelle un nouveau chemin vers la présidentielle notamment. On va y revenir dans le détail avec vous, avec des mots, avec une fermeté, avec une force dans le ton, une primauté, une autorité présidentielle rappelée aussi s'agissant du racisme et des statuts déboulonnés comme ça a été le cas, on l'a vu depuis plusieurs jours maintenant. Gérard Carrérou.
Oui, c'est la partie, je dirais, qui m'a donné le plus de satisfaction dans les propos du président d'hier soir. On parlera tout à l'heure, j'imagine, de l'économie,
des autres aspects, bien sûr, du travailler davantage,
et éventuellement de sa campagne présidentielle. Mais je voulais vraiment souligner, pour moi, c'est le discours de la loi et de l'ordre républicain. Et c'était pas évident. Vu les pressions qui s'exerçaient depuis 2 semaines et vu le tempérament du président de la République, en même temps, on pouvait s'attendre ou craindre qu'on renvoie un petit peu dos à dos les policiers qui sont mécontents, à juste titre, et puis
frange de la population.
La frange, racialiste et indigéniste qui fait des manifestations.
Ah, carrément.
Oui, parce que c'est quand même eux qui mènent la danse. Même s'ils ne sont pas tout seuls dans les manifs, c'est eux qui mènent la danse. Donc, je pensais qu'ils pouvaient... Et là, c'est clair, il a dit des mots qui sont forts, les mots de séparatisme, de communautarisme, l'écriture haineuse, entre guillemets, ou fausse du passé. Et ça, je pense que c'était absolument nécessaire. Au fond, on a parfois ici, d'ailleurs, reproché à Macron d'être un peu flou sur le côté, justement, et on disait c'est un peu la part
l'angle mort, et c'est Édouard Philippe qui est martial.
Parce qu'au départ, ce jeune homme, parce que c'était un très jeune homme dans sa campagne présidentielle, était plutôt... comme les anglo-saxons, plutôt un peu communautaristes, lui trouvait que c'était pas mal, multiculturel, etc. Ça fait 3 ans qu'il est président, il a vu comment la situation s'est développée, et là, je crois qu'il a remis la pendule à l'heure, et l'Église, comme on dit volontiers, l'Église
au milieu du... Ça vous a pas fait penser d'ailleurs à ce qu'on entend outre-Atlantique, avec un Donald Trump qui est dans le modus operandi, la loi et l'ordre, à la façon de Nixon en 69 ?
Non. Macron n'est pas Trump et ne s'exprime pas par une série de tweets qui sont assez désarçonnants.
Non, mais uniquement sur ce modèle-là.
Non, moi, c'est vrai, je suis d'accord avec Gérard, c'est vrai que c'est clairement le passage du discours le plus expressif, le plus clair. Parce que pour le reste, on peut en parler. Mais je dirais que c'est trop peu et trop tard. Il reste l'image d'un président silencieux pendant 10 jours, qu'a demandé au ministre de l'Ordre, c'est-à-dire Castaner, et au ministre de la Justice, c'est-à-dire Madame Belloubet, de prendre des initiatives pour calmer les comités Traoré au détriment de la majorité silencieuse et des forces de l'ordre. Les plus silencieux de ces forces de l'ordre, ce ne sont pas les policiers, parce que les policiers s'y sont pas trompés. D'ailleurs, parce qu'ils attendent des actes. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans la sémantique. Mmh. Et quel acte ? D'autant qu'ils, eux, s'estiment, si vous voulez... désamorcer sur le plan de l'interpellation de ceux qui ne veulent pas justement l'être et qui en général s'opposent de plus en plus fermement, on l'a vu dans les images de ce week-end, notamment à l'égard d'une policière véritablement lynchée sous l'œil des caméras. Bon, et les gendarmes, eux, quand vous discutez avec les plus gradés même d'entre eux, ne sont pas dupes du tout de ce qui les attend. Et si par leur statut, ils ne peuvent s'exprimer, ils sont, je dirais, plus précis même que les syndicats de policiers. Et ça n'est pas tendre, si vous voulez, pour le pouvoir exécutif. Alors, le président sait qu'il lui faut trouver un nouveau ministre de l'Intérieur et une nouvelle garde des Sceaux, et qui apaise les esprits, qui protège le président. Parce que là, le président a été mis en cause directement. Et c'est la raison pour laquelle cette mauvaise humeur n'est pas apaisée encore. Mauvaise humeur, je suis même tendre, si vous voulez.
En dessous de la réalité,
effectivement. À la manière dont ils se sont exprimés avec moi. Et puis, partant de là, c'est pas si facile compte tenu
Charles,
de ce qu'il
Charles,
a exprimé.
Si tu me permets quand même d'entrer dans le deuxième acte, tu dis c'est trop tard, un peu tard. C'est peut-être un peu tard, mais il se trouve que son discours était prévu pour dimanche. Mais c'est jamais trop tard pour bien faire, d'abord, je dirais. Et deuxièmement, il y aura un deuxième acte. Le deuxième acte interviendra en juillet, peut-être au moment
juillet,
du remaniement.
Voilà. Alors,
on peut déjà dire que seront virés du gouvernement, vraisemblablement, on peut le dire, mais certainement, Castaner et la garde des Sceaux, et que la situation montre l'urgence de cela. Regardez ce qui s'est passé la nuit dernière. On a maintenant des gangs de Tchétchènes, des gangs,
on
il ne s'agit pas de 5 personnes,
bien sûr.
Centaines de personnes qui à Lyon, pour 3 jours de suite, s'entrebattent avec des gangs maghrébins. Vous vous rendez compte de ce qu'est la situation de la France quand dans la banlieue d'une grande ville.
Oui, mais si on est dans cette situation, j'en reviens juste en un mot au propos que j'ai développé, c'est qu'on a attendu 10 jours pour le faire et qu'on a laissé monter en puissance ce genre de manifestation. Et d'ailleurs, de plus en plus, je me demande si on ne verse pas dans une société d'affrontement plutôt que de réflexion.
Oui, voilà. Mais c'est bien quand même de ne pas déboulonner. Moi qui suis allé, par exemple, au Collège Colbert, je suis fier d'être allé faire mes humanités au Collège Colbert. Je suis fier d'avoir lu tout ce que j'ai lu sur ce grand ministre de Louis XIV. Je trouve indécent que des gens aient voulu s'en prendre. Et quand je vois un ancien Premier ministre de la République,
Jean-Marc Ayrault,
en l'occurrence Jean-Marc Ayrault, qui a le culot, cet ancien Premier ministre, de vouloir débaptiser la salle Colbert. La salle Colbert, pour tous ceux qui fréquentent, et moi je l'ai fréquenté pendant 50 ans, l'Assemblée nationale, c'est la salle où se réunit toujours le groupe majoritaire.
La salle la plus prestigieuse.
Depuis le général de Gaulle. C'est un peu une insulte même au général de Gaulle que de
vouloir... Vous savez juste, messieurs, que c'est pas le président de la République qui a la main sur ces choses-là. C'est-à-dire que si l'Assemblée nationale, on doit débaptiser une salle, c'est à l'Assemblée nationale de décider. Sûr. Les noms des rues relèvent des municipalités. De même que le choix des statuts. Donc,
Gérard n'implique pas le président de la République, mais un ancien Premier ministre qui, justement, a été député de Nantes, d'ailleurs, maire de Nantes d'abord, et député ensuite, et qui a l'habitude, justement, de la salle Colbert. Ouais. Comme un certain nombre d'entre nous avaient l'habitude de la salle Colbert où se tiennent en général les conférences de presse, les interviews
bien
des
sûr.
Journalistes.
Ouais, bien sûr. Alors on se retrouve dans un instant, on va dérouler la suite de son allocution au président sur l'aspect économique des choses. Il a eu une phrase évidemment qui a fait largement réagir, notamment sur le travail des Français. Travailler et produire davantage. A tout de suite messieurs, Charles Villeneuve, Gérard Carrero, les grandes voix. Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Gérard Carrero et Charles Villeneuve, jusqu'à 19h. Et Emmanuel Macron qui s'est offert aussi un satisfecit sur sa gestion de sa crise, sur la gestion de la crise. Hier soir devant les Français, l'État a tenu, a dit le président de la République. Et puis le président de la République a continué à développer bien sûr sur ce qu'il attend des Français. Charles Villeneuve, qu'a voulu dire le président quand il demande aux Français de travailler et produire davantage? Parce que évidemment, c'est la phrase qui a fait réagir. Bruno Le Maire s'en est emparé aussi ce matin. Et puis Laurent Berger pour la CFDT, bien sûr.
Mais le président de la République sait mieux que personne que la France n'a plus de marge de manœuvre budgétaire. On est passé en 3 mois, je vous le rappelle, d'un déficit de 2% de la richesse nationale à 11% et d'une dette publique de 98% à 120% du PIB, du produit intérieur brut. Et pour combler un tel écart, il faut une forte croissance dans les 3 ans qui viennent, d'où la phrase travailler plus pour produire mieux. Ça, c'est le programme du futur gouvernement, donc du deuxième discours de juillet, après les élections municipales, et d'ailleurs le plus attendu entre nous. C'est là que le casting est important. Qui sera celui qui conduira la nouvelle équipe? D'autant que le Premier ministre actuel, Philippe, n'est pas un souverainiste, ni un écologiste. C'est la mode, on verra jusqu'à quand.
Oui, ça a été le cas hier soir.
Et il n'y a pas de figure écologique dans l'équipe d'Emmanuel Macron à l'heure actuelle. D'autant qu'il faut attendre les résultats du deuxième tour, parce que les écolos peuvent, si vous voulez, changer l'atmosphère s'ils remportent Strasbourg, Toulouse et Lyon. Et ça, le président de la République devra en tenir compte.
Tout à fait. Cette ville rose sur laquelle on va zoomer dans un instant, évidemment, avec les sondages aussi, à 15 jours du deuxième tour des municipales. Évidemment, Gérard, la question, elle est dans la tête de tous les Français, du côté des syndicats, quand on entend travailler plus, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que ça veut dire travailler tous et mieux? Si on le comprend ainsi, et si ça veut vraiment dire ça, Laurent Berger dit ok. Si ça veut dire travailler plus pour ceux qui ont déjà travaillé et travailler plus en termes de durée, là, ça ne passera pas. Et de toute façon, ça ne passera pas.
J'ai envie de dire les deux, colonel, vous n'êtes pas colonel, mais les deux. je pense qu'il y a un peu des
deux. Tu peux dire mon capitaine.
Il faudra travailler, effectivement. Il faudra que la France, globalement, travaille plus. Parce que si on veut ne pas se distancier des autres pays comme l'Allemagne, déjà, on était déjà loin. Donc, il faudra travailler plus. Alors, travailler plus, ça veut pas
renoncer
dire...
à des jours de congé, ils ont dit non. Vous avez entendu Bruno Le Maire ce matin.
Écoutez, laissons l'intelligence collective. Ça va se négocier probablement dans un certain nombre... Ça a commencé.
Tout à fait.
Dans un certain nombre d'entreprises. C'est une question qui va se négocier.
C'est ce que je voulais dire.
Ça ne sera pas décrété.
Non, c'est ça. Ça va être du cas par cas.
Parce que là, ça serait la révolution. Voilà. Si le président. Parce qu'on a eu que la bande
syndicale. Oui, c'est ça. On l'a vu chez une enseigne qui s'appelle De Richebourg. Ça a commencé déjà. Chez Ryanair, c'est plus violent, plus virulent.
On a vu que la bande annonce là, du président de la République, il a fait la bande annonce de son discours de juillet, du 14 juillet ou après, je crois que c'est le 14 ou le 17, je ne sais plus. Enfin bon, on donne des dates déjà, mais on n'a pas la confirmation. Mais c'est la bande annonce.
Disons au lendemain du deuxième tour.
Mais dans cette bande annonce, il y a quand même deux choses qui vont être difficiles. Il y a quelque chose qui est du macronisme fondamental depuis le début, c'est qu'il a une foi européenne. Et donc, sa relance va être marquée du sceau de la relance européenne. Et par exemple, d'essayer de faire des accords sur la production des médicaments, ce qui n'avait pas été le cas lors du virus, du médicament pour toute l'Europe. On ne peut pas faire des usines de médicaments uniquement pour le marché français. Bon. Donc, il y aura à la fois l'Europe, mais il y a un deuxième volet. Et c'est là que le mariage des deux va être un peu difficile. C'est qu'il parle de souverainisme.
Mais oui, c'est ça ce que j'allais vous dire. Gérard, il dit une dizaine de fois les mots indépendant, indépendance et souveraine pour la France.
Oui, alors souveraine pour la France, en fait, souveraine, c'est plutôt souveraine pour la France, c'est plutôt le propos de Marine Le Pen et ce qu'on appelle les souverainistes en France. C'est pas le propos de Macron.
Oui, mais d'ailleurs, Emmanuel Macron, je trouve, a opéré une mue durant ce confinement. Et il s'est rapproché vers des codes chevènementistes. Là, tu viens de le souligner. Imprégné de souveraineté, de responsabilité républicaine, il a prononcé le mot « nation » 5 fois en 19 minutes.
Ah oui, vous avez fait le compte.
C'est tout de même un virage par rapport au libéral qu'il était.
Et qui critiquait le nationalisme à tous ses discours.
Ouais. Et jusqu'à la crise du Covid-19. Ouais. Il s'est aperçu, je trouve, tardivement de notre dépendance industrielle à l'égard des Chinois. Et donc, s'il veut revenir vers ça, il a raison de compter sur l'Europe. Parce que ça ne peut se faire dans une entité européenne.
Et oui, c'est ça. Alors, tout cela, un avant-goût de ce qu'il annoncera vraiment dans 15 jours, 3 semaines. En tout cas, c'était effectivement le teasing, comme nous l'a fait le président de la République hier soir. On se retrouve dans un petit instant. On zoome donc ce soir sur la ville rose, Toulouse, avant le second tour des municipales. A tout de suite. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec les grandes voix jusqu'à 19h. Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Adélaïde Zulfikar-Pazic, directrice de BVA Opinion. Bonsoir Adélaïde.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue dans ce studio. On vous retrouve évidemment avec vos sondages, avec vos enquêtes d'opinion. Et on va zoomer parce qu'on est maintenant à 13 jours du second tour des municipales. Ce soir sur la ville rose, sur Toulouse. Sondage BVA, La Tribune, vous êtes directrice de ce département. Le second tour, il s'annonce comment? Premier enseignement de cette enquête?
Le premier enseignement, je dirais, c'est que de même que la crise du Covid a joué les troubles faits à l'occasion du premier tour en s'invitant et en pesant lourdement sur la participation, cette crise va forcément peser aussi sur le second tour, à la fois sur les enjeux, en venant bouleverser un peu la donne, et puis aussi en jouant sur la participation. Sur les enjeux, de manière très concrète, on va assister quand même d'une certaine manière, puisque c'est la première fois que les électeurs seront appelés à revenir aux urnes après la crise, à une sorte un peu de renationalisation des enjeux. Et d'ailleurs, les Toulousains nous disent aux deux tiers anticiper des conséquences durables de la crise sur leur quotidien au sein de leur métropole. Et évidemment, ce qu'ils redoutent le plus, c'est d'une part la crise économique et la crise sociale. Loin devant le risque sanitaire, ce qui est assez surprenant, on dirait qu'ils ont quasiment déjà tourné la page.
Dans le monde d'après.
Voilà. Ouais. Et puis, loin aussi devant le risque d'une aggravation de la crise environnementale, ce qui ne veut pas dire qu'ils en font un sujet secondaire, mais leur préoccupation principale, d'abord, c'est la crise économique et les conséquences sociales.
On va rappeler juste la liste d'Union de la gauche, elle est menée par Antoine Maurice, et la liste du maire sortant, le maire Les Républicains, c'est Jean-Luc Boudin, qui, bien sûr. On est donc quoi? Ça joue à quoi?
C'est un mouchoir de poche. Alors qu'il est, on sent une légère légère dynamique de l'union de la gauche de la liste Archipel menée par Antoine Maurice. 51% des voix devant 49% pour Jean-Luc Moudenc. L'honnêteté intellectuelle me pousse à vous dire qu'un 51-49 à cette échéance du scrutin, c'est très peu et c'est vraiment du coude à coude. Avec un enjeu qui va être très fort, qui est celui de la participation électorale. Elle a été très faible, comme partout en France, au premier tour. 15 points de moins qu'en 2014. Là, on anticipe une participation... Ouais. Plus forte qu'au premier tour de cette année, mais quand même moins forte qu'en 2014, avec une question qui va être fondamentale, c'est qui va aller voter.
Bah, c'est ça.
Les plus de 65 ans sont encore un peu frileux, restent chez eux, ça peut être préjudiciable au maire sortant, parce que son socle électoral est d'abord constitué de personnes de 65 ans et plus. Voilà, donc cette question de la participation va être cruciale pour l'issue du scrutin, puisqu'on est à un point près.
Un point près, bah oui, c'est rien. Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, vous connaissez bien la ville de Toulouse.
Écoutez, je me souviens d'avoir interviewé, une de mes premières interviews de municipales, c'était les municipales de 60, je ne sais plus, dans les années 70, c'était M. Louis Bazerque, maire socialiste de Toulouse, qui avait d'ailleurs fait plusieurs mandats. Je crois qu'il est resté au moins 2 mandats, c'est-à-dire 12, voire même 3 mandats. Et puis après, j'ai eu l'occasion, comme d'autres, d'interviewer les 2 Baudis, puisqu'il y a eu le père et le fils. Bon, donc la ville n'est pas une ville, je dirais, extrémiste. C'est une ville où, effectivement, il y a une tradition socialiste qui a existé et il y a une tradition centriste. Et je pense que là, c'est pour ça peut-être que ce que vous nous dites du sondage montre que c'est ric-rac. Parce que il ne faudra pas grand-chose pour que ça passe d'un côté à l'autre. Et ce n'est pas l'extrême droite contre, je sais pas quoi, contre l'extrême gauche. C'est vraiment le centre-droit de M. Moudenc contre probablement une gauche assez social-démocrate.
Qui va quand même jusqu'à la France insoumise.
Il y a quand même la France insoumise.
Non, alors, mais c'est un
c'est un peu ça. C'est,
c'est un département ratsoc depuis toujours, radical socialiste. Et donc centriste, soit une fois centriste de gauche, centriste de droite. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la candidate socialiste, qui porte un nom typiquement de la région, d'ailleurs, elle n'a pas voulu s'allier avec les écolos. Et est-ce que ça peut peser dans le vote en faveur de Moudenc ?
Ça va se jouer effectivement dans ce 1 ou 2 points qui séparent les 2 candidats. Ça va se jouer là, puisque ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les électeurs LR et ou La République En Marche qui ont voté pour Moudenc au premier tour nous disent assurément avoir l'intention de voter pour lui au second tour. Le mécanisme de report de voix des électeurs potentiels d'Antoine Maurice est un petit peu moins évident. On a effectivement une part certes minime, mais non négligeable, d'électeurs de Nadia Pelfig et y compris de Pierre Cohen qui nous disent: je ne suis pas complètement sûre d'aller voter pour Antoine Maurice. Et alors, ils n'iront pas voter pour Moudenc, mais en revanche, ils peuvent décider de s'abstenir. C'est pour ça que je disais que la question de la mobilisation des électeurs dans les 15 jours qui viennent sera fondamentale.
Mais est-ce que M. Moudenc a été considéré par les Toulousains comme trop Macron compatible, c'est-à-dire trop proche du président de la République actuel, ou pas ?
Je ne pourrais pas vous dire, parce qu'on ne pose pas la question dans ces termes-là. Il a plutôt un bilan jugé positivement, même s'il n'a pas non plus un score incroyable par rapport à ce qu'on peut mesurer pour d'autres maires. Un bilan jugé positivement par 2/3 des personnes interrogées. Les Toulousains sont plutôt satisfaits.
Oui, ouais. En revanche, Adélaïde Zulfikar-Pazic, quand on parle de crise économique et sociale, puisque c'est la première préoccupation aujourd'hui des Toulousains, là c'est Jean-Luc Moudenc qui tient un peu la corde.
Oui. Voilà, il est jugé comme étant le plus légitime pour protéger la ville face à ces enjeux. Globalement d'ailleurs, sur tous les enjeux qu'on a testé, à l'exception de l'enjeu environnemental, il est jugé comme le plus crédible. Je tempérais quand même ce résultat en disant que c'est souvent ce qu'on observe dans les enquêtes municipales, on a une prime au sortant. Rappelez-vous le sondage qu'on a fait pour Paris avant le mois de mars, alors qu'Anne Hidalgo était complètement décriée, c'est quand même elle qui était jugée la plus compétente, la plus ceci, parce qu'il y a le bilan et l'expérience du maire sortant. Et Antoine Maurice était un parfait inconnu du grand public il y a un an aussi.
Aussi. Merci, on va s'arrêter là. On reviendra avec vous sur Marseille et aussi sur Paris, la capitale, évidemment, Adélaïde Zulfikar-Pazic, directrice du département Opinion chez BVA et avec les grandes voix ici présentes. Merci Charles, merci Gérard, à demain.
Merci. Europe 1.